Insoumise.
Androgyne.
Créative.
Contraception.
Artiste.
Féminisme.
Vagin.
Ouvrière.
Mère.
Ménopause.
Paysanne.
Sorcière.
Sororité.
Trans.
Guerrière.
Poétesse.
Utérus.
Sorcière.
Femme.
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 Féminin, pluriel.
À l'occasion de Féminin Pluriel, nous mettons à l'honneur les femmes soignantes. Médecins, sages-femmes, infirmières, aides-soignantes, toutes se sont confiées sur leur métier. Pourquoi avoir choisi ce métier, métier qu'elles exercent avec passion, malgré les difficultés? Voici leur portrait.
Donc, je m'appelle Léa, j'ai 27 ans et je suis médecin généraliste. J'exerce depuis un peu plus d'un an au moment où j'ai terminé mes études à la fac.
Alors bonjour Léa.
Bonjour.
À quel âge tu t'es dit « je voudrais devenir médecin » ?
Eh bien, j'avais à peu près 18 ans. J'étais déjà en première année d'université à Paris. À la base, j'ai commencé la fac en me disant que je voulais être dentiste. Et il se trouve que la première année d'études, elle est commune à plusieurs filières du secteur du soin. Et donc, j'étais partie là-dedans en me disant que j'allais faire dentaire. Et en cours de parcours, j'ai changé d'avis et finalement, je suis allée dans la filière médicale.
Mmh. Est-ce que tu te souviens à quel moment de ta vie ce désir est né ?
D'être médecin ?
Ouais. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ?
Eh bien, comme je disais, j'étais déjà en première année d'études de santé. Et c'est vrai que voyant l'immensité des connaissances que je pouvais acquérir et tout ce que ça pouvait m'apporter, d'abord, ça a été un intérêt plutôt intellectuel. Et ensuite, je me suis rapprochée d'autres dimensions qui me parlent davantage aujourd'hui, notamment sur le plan relationnel, humain, éthique, etc.
Est-ce que tu as des parents qui exercent dans cette profession ?
Pas du tout.
Pas du tout. Est-ce qu'il y a eu une influence de la part de tes proches pour aller dans cette voie-là ou pas ?
Pas non plus.
Non plus. C'est vraiment un choix personnel.
Oui. Ouais. Ça aurait pu être à peu près n'importe quoi de scientifique.
D'accord.
Alors aujourd'hui, ce qui me plaît dans la médecine générale, c'est vraiment la multiplicité des possibles et des prises en charge. J'aime le fait de voir tout type de population de tous les âges, pour tout genre de problématiques. J'aime bien cette diversité-là. Après, je suis encore au début de ma pratique, donc je n'arrive pas au point où je me dis j'ai très envie d'aller creuser un petit peu plus cette dimension, même s'il y a des choses qui me parlent davantage, des prises en charge qui aujourd'hui sont plus intéressantes pour moi. Ce que j'aime dans la médecine générale, c'est qu'au fur et à mesure des années que je passe et que j'y travaille, je peux aller dans différentes directions et revenir toujours, changer d'avis et creuser un autre espace.
Alors dans ta promo, combien y avait-il de femmes ?
Très bonne question. Dans ma promo initiale, quand j'ai fait mes premières années de fac à Paris, on était à peu près 500. Et je pense qu'on devait être plus de la moitié de femmes. Et dans ma deuxième promo de médecine générale à Toulouse, on était à peu près 130. Et je pense qu'on était plus de femmes encore.
D'accord. En proportion, il y avait plus de femmes que d'hommes.
Oui.
D'accord. Est-ce que tu penses que le soin est une affaire de femmes, tiens ? Aujourd'hui.
Alors le soin est associé à des caractéristiques qu'on a tendance à dire féminines, donc de l'écoute, de l'empathie, de la considération, oui, qui sont plutôt associées au genre féminin dans nos sociétés. Donc effectivement, ça explique qu'il y ait pas mal d'infirmiers qui sont en fait des infirmières, des aides-soignantes, et tout un tas de professions autour du soin qui soient vraiment féminines et féminisées. Chez les médecins, c'était moins courant parce que les études étaient moins accessibles et plus longues, Mais aujourd'hui, avec l'évolution aussi sociétale, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes, notamment, à mon avis, pour ces raisons-là. Ça reste un métier qui est très humain, qui est très axé sur l'autre. Et pour moi, effectivement, c'est quelque chose qui est en jeu. Après, j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire pour être un bon médecin d'être une femme. J'aimerais bien dire que l'évolution des pratiques va aussi vers... on paternalise de moins en moins la relation, mais également dans les relations avec des médecins hommes. C'est plutôt un état d'esprit de nos sociétés. Voilà, on avance vers plus d'autonomisation des patients, plus de prise en charge et d'autodétermination, qui va aussi avec un retrait de l'implication du médecin en tant que décideur de la prise en charge. Mm-hmm. Et ça se fait en parallèle de la féminisation. Alors, est-ce que tout ça est interlié? Je ne sais pas. Can you feel the vibration waving through me? Another kind of sensation. See, can you see? See how I operate now? How I modulate now? Can you feel the vibration waving through me? It's unusual.
toi, c'est quoi une journée type dans ton boulot, entre le boulot, la vie sociale, la vie familiale, c'est quoi une journée type d'une femme médecin?
Alors aujourd'hui, j'ai la chance de travailler 3 jours par semaine sur mon lieu de travail, ce qui correspond à un travail à 3/4 temps. Je fais des grosses journées, ce qui veut dire que les journées où je suis au travail, en général, je fais que ça. Donc j'ai des journées assez chargées et mes journées s'organisent avec des créneaux de consultation où je reçois des personnes dans mon cabinet et des créneaux où je me déplace au domicile des personnes lorsque la situation le nécessite. J'ai des créneaux de soins programmés, des créneaux où je reçois des personnes en urgence. Et en général, quand je rentre chez moi à la fin de ma journée, j'ai un petit peu de temps pour ma vie personnelle et je peux également prévoir quelques activités en dehors de mon métier. Mais globalement, ça reste très chronophage ce genre de journée-là et j'aime bien avoir des journées où je ne travaille pas pour me permettre de diversifier mon univers de vie.
On a l'impression aussi que ce métier a énormément évolué justement dans l'organisation du temps de travail. Est-ce que tu le vois d'un point, enfin, tu le vois comment cette organisation, tu la vois comment par rapport justement à des médecins qui exerçaient 70, 80, 90 heures par semaine.
C'est vrai qu'aujourd'hui, alors moi et la génération des plus jeunes médecins, on va dire, on a moins envie d'avoir des semaines si chargées. On a une vraie volonté d'avoir une vie à côté du travail. Voilà, le travail n'est pas la vie, mais devient un instrument de la vie, une façon d'enrichir nos réflexions, nos pratiques, d'évoluer personnellement dans son travail, mais aussi simplement quelque chose qui nous permet d'avoir un salaire et puis de mener une vie à côté du travail. Donc ça va avec une diminution du taux horaire qu'on passe au travail. Et souvent, les personnes que je connais autour de moi travaillent entre 2 et 4 jours par semaine, au lieu des habituels 5 ou 6 jours sur 7.
Est-ce que quand on est médecin, est-ce qu'on est médecin aussi à la maison? Est-ce qu'on a tendance à être un peu médecin à la maison?
C'est-à-dire avec les gens à la maison, il y a quand même beaucoup de conversations qui vont tourner autour de ça, parce que c'est un sujet de préoccupation qu'on, personnellement en tout cas, j'ai du mal à lâcher au moment où je quitte mon cabinet. Voilà, mes patients m'accompagnent quelque part. Mais ça s'entend aussi du fait que pour un tas de gens, dans ma vie personnelle, je suis aussi médecin. Et du coup, j'ai parfois des amis qui me demandent des conseils ou des coups de main, ou de leur rendre service du fait de cette profession-là. Donc oui, un peu médecin, mais en même temps, moi, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de mettre au centre de ma vie quand je ne suis pas au bureau.
Mmh. On arrive à faire la distinction, donc.
À peu près, ouais.
On revient sur des clichés aussi, peut-être un peu paternalistes, mais qui s'occupe des tâches ménagères à la maison? Quand on est une femme médecin qui a une vie un peu chargée.
Moite-moite, tout simplement.
ouais, ça au niveau de l'organisation, on arrive à... Enfin, c'est une génération aussi qui est la tienne qui sait faire la part des choses aussi à ce niveau-là.
Oui, moi j'ai vraiment à cœur l'idée que ce soit pas forcément... J'ai envie d'avoir un métier comme tout le monde et pas d'avoir quelque chose qui est ni plus ni moins valorisé ou qui va me laisser des excuses ou l'inverse. Du coup, moite-moite quoi.
En consultation, tiens, est-ce que tu as déjà eu des remarques sexistes?
C'est arrivé... Alors, je pense à des patients un peu âgés, souvent des hommes, qui ont dû me faire des remarques qu'on pouvait aussi mettre sous l'effet d'état de confusion par leur maladie.
D'accord. Ça t'a pas forcément dérangé plus que ça? Enfin, en tout cas, t'en as pas fait une affaire d'état ou comment on gère ça, justement?
Moi, j'ai tendance à prendre de la distance. Alors, ça peut m'agacer sur le moment. Après, j'ai tendance à prendre de la distance, à le mettre en perspective et à ne pas focaliser là-dessus. En général, j'ai plutôt confiance dans ma pratique et mon attitude pour ne pas prendre en compte des choses marginales qui ressemblent à ça.
Comment vois-tu l'évolution de ton métier dans les 10-15 prochaines années?
Un peu difficile de projeter tout ça. Il y a pas mal de problématiques, notamment sur la démographie des médecins en France, qui sont source d'inquiétude pour la profession, on va dire. Du coup, l'évolution est assez incertaine. On a tendance à penser qu'on va avoir plus... On va devoir déléguer plus de tâches, on va devoir informatiser plus de choses, on va devoir organiser nos pratiques différemment, avec un tas d'inconnus qui sont comment est-ce qu'on va faire ça, sur quelles décisions politiques et ministérielles ça va aussi se reposer, et dans quelle mesure il n'y aura pas trop d'écart entre différents territoires. L'enjeu, ce serait de préserver une bonne qualité de soins et une bonne qualité de travail, malgré les conditions qui sont pas évidentes.
Est-ce que ces conditions, on le voit nous ici en milieu rural, est-ce qu'elles sont autant déplorables en milieu urbain qu'en milieu rural, j'ai envie de demander, parce qu'on a l'impression qu'ici, si on veut trouver un médecin, c'est compliqué. Si on n'a pas de médecin traitant, c'est compliqué.
C'est vrai. Alors, c'est aussi le cas en milieu urbain. C'est différent, mais aujourd'hui, le désert médical, comme on le définit, il existe également en ville, même si il n'a pas la même conséquence ou il n'a pas la même façon de s'exprimer, on va dire. C'est-à-dire que peut-être qu'on a l'impression qu'il y a un recours aux soins, notamment aux spécialistes, qui est plus facile en ville, mais le déficit est bien présent. Et aujourd'hui, quand on dit qu'on manque de médecins à la campagne, ce serait faux de croire que c'est parce qu'il y en a trop qui sont en ville. C'est juste qu'on manque de médecins partout et ça se voit plus à la campagne. Mais pour autant, c'est vrai que les prises en charge complexes à la campagne sont plus complexes que ce qu'elles ne sont en ville.
Pour quelles raisons, à ton avis, est-ce que c'est parce qu'il manque des élèves dans les facs de médecine? Est-ce que c'est parce que le fameux numerus clausus est arrivé à son terme trop tard?
Alors cette question tombe à pic. J'ai fait des petites recherches il n'y a pas longtemps sur le sujet. Et donc il se trouve qu'il y a une question numerus clausus. Dans les années 80-90, ils ont drastiquement diminué le nombre de personnes qui allaient pouvoir devenir médecins. Ce qui a conduit à un déficit sur une génération de les 15 ans de médecins, qui aujourd'hui sont âgés entre 40 et 60 ans, globalement. Donc là, il y a un énorme déficit. Après, ils l'ont rouvert, mais le temps que ça repeuple à nouveau les bancs de la fac, on a un écart à rattraper. Comme on en parlait tout à l'heure, l'évolution des pratiques avec les personnes qui travaillent jusqu'à deux fois moins qu'un médecin d'avant, ça n'a pas été forcément pris en compte non plus dans la projection sur la démographie médicale. Et aujourd'hui, ça cause défaut également. Et la troisième chose, je dirais que c'est sur le plan des patients à soigner, il y a de plus en plus de personnes vieillissantes, âgées, avec des problématiques de santé complexes et multiples, qui prennent du temps dans la prise en charge. On a des prises en charge de plus en plus difficiles à organiser, et le rôle du médecin généraliste, en tout cas, est de plus en plus complexe. Donc on a aussi à ce niveau-là finalement un déficit vis-à-vis des pratiques qui étaient autrefois faites. Donc tout ça ensemble, ça fait qu'on a, la situation était peut-être mal anticipée avec des facteurs sur lesquels on pouvait agir et d'autres qu'on pouvait mal imaginer à l'avance. Mais aujourd'hui on arrive à cette situation complexe qui prévoit de se chroniciser encore quelques années.
Est-ce que tu penses que quand ils ont réouvert ce numerus clausus, c'est à ce moment-là qu'il y a eu plus de femmes qui se sont inscrites dans les facultés de médecine ou pas? Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Je ne sais pas.
Je ne pourrais pas dire avec précision ça. Je n'ai pas vraiment étudié comment est-ce que les femmes sont rentrées en école de médecine. Je sais que parmi les médecins qui sont âgés aujourd'hui de 60 ans et plus, c'était globalement rare. Et que parmi les personnes qui ont 40 ans, c'est globalement moins rare. J'imagine qu'il y a une dimension sociale avec, que je n'ai pas complètement en tête.
Est-ce que tu penses également qu'aujourd'hui, vu l'évolution de votre métier, qui est peut-être un peu moins attractif financièrement que ça pouvait l'être il y a 30, 40 ans. Est-ce que tu penses que c'est peut-être pour ça qu'il y a moins d'hommes aussi, médecins ?
Oh, j'y ai jamais pensé. Je dirais qu'il y a des spécialités qui sont très attractives financièrement parlant. Je ne sais pas si ça attire davantage des hommes ou davantage de femmes. Le métier de généraliste n'est pas celui qui est le mieux valorisé au niveau des tarifs pratiqués.
Oui.
Effectivement. Pour moi, ce n'est pas un critère. Ça n'allait pas trop pour les personnes avec qui j'ai l'habitude de travailler ou que je côtoie dans mon quotidien. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette image de médecin blindé qui circule. Alors que finalement, voilà, j'ai envie d'avoir un métier normal et un salaire normal.
Mmh. C'est quoi un salaire normal ?
Un salaire normal, c'est un salaire qui me permette de vivre avec confort et qui reste, comment dire, qui reste comparable avec celui que peuvent toucher d'autres personnes dans mon cadre de vie. Mmh.
Est-ce que tu... Parce que là, tu débutes un petit peu ta carrière de médecin généraliste. Et est-ce que tu te vois faire ta carrière en tant que médecin? Ou est-ce que tu te dis, bah, peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, ou même avant, j'aurais envie de faire autre chose dans ma vie?
Ouais, peut-être. Je me laisse pas mal de portes ouvertes. Je sais pas vraiment ce que je vais faire dans 10 ou 15 ans et non plus dans 5 ou 6 ans. C'est un métier que j'aime beaucoup et qui m'apporte énormément. Et plus je le pratique, plus je l'aime. Donc, quand même, je sais que j'aurai pas la chance de trouver ça partout. Mais voilà, qui sait ce qui va se passer plus tard.
Mmh. Tu te laisses la porte ouverte au cas où.
Ouais.
Quelles sont, à ton avis, les qualités que doivent avoir un médecin ?
Généraliste.
Oui.
Je dirais... la disponibilité mentale, psychique, ouais, bon, c'est la même chose, émotionnelle, physique, voilà, ça va avec l'écoute, ça va avec l'empathie. Je pense que c'est la première caractéristique. Après, l'organisation des parcours de soins, des suivis, des prises en charge, des emplois du temps, d'une façon de travailler. Et puis du recul pour savoir prendre de la distance vis-à-vis de certaines choses, se protéger soi-même, ouais, éviter de trop s'impliquer émotionnellement.
Ça, c'est compliqué ?
Ça peut l'être. Mais finalement, plus on est confronté à des situations et plus on apprend aussi à gérer avec.
Et à ton avis, quels sont les écueils à éviter quand on est médecin ?
Eh ben... Je pense qu'il faut éviter de tomber dans le paternalisme ou une façon de donner des conseils là où ils sont pas forcément demandés ou pertinents. On a vite tendance à imaginer qu'on est référent de la prise en charge et parfois à prendre la charge de la responsabilité de la santé du patient sur nous. Ça, selon moi, ce serait évité. Personnellement, en tout cas, j'essaye d'autonomiser et d'éduquer les personnes que j'ai dans ma patientèle pour les rendre acteurs de leur santé, leur répéter que voilà, c'est pas à moi de savoir si leur tension est bien contrôlée, par exemple, mais qu'ils sont responsables de leur santé et que moi, je suis responsable de leur suivi.
Mmh. Oui, les responsabiliser un minimum.
Voilà.
Si tu avais un message à faire passer à des femmes qui ont envie d'exercer ce métier, ça serait quoi ?
J'ai envie de dire qu'il faut avoir confiance en soi, qu'on a toutes des qualités, même si ce n'est pas celles qui vont être mises en avant par les professeurs qu'on peut avoir à la fac ou d'autres personnes qu'on va croiser dans notre cursus. Que finalement, chaque façon d'être médecin va trouver un répondant et qu'à un moment ou à un autre, ce sont des qualités qui vont servir et qui vont faire du bien à certaines personnes.
Je ne suis pas sûr qu'on se passera un jour du ciel. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr que ce qu'ils disent soit essentiel. Et une chose est sûre, c'est qu'ils font pour l'instant audience. Et là, ma belle, ce qui te fait mal au ventre, c'est ton intelligence. Et je ne suis pas sûr que ce soit si évident. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr que la fin est proche à présent. Et je ne suis pas sûr que ce soit si intéressant. Eux, là, partout, tout le temps. Et je ne suis pas sûr qu'on y courra tous acharnés. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr que de leur monde on puisse faire plus désincarné. Et une chose est sûre, c'est qu'on se fatigue de tout ça. Et là, ma belle, ce qui te fait de l'eczéma, c'est qu'on ne te fout pas la paix avec ça. Et je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûr qu'on écrira plus de lettres de désertion au président. Je ne suis pas sûr que jamais ne vous détrôneront nos enfants. Et je ne suis pas sûr même qu'ils ne vous arracheront pas les dents. On ne maîtrise plus rien, tout part à volo dans l'éducation. Et je ne suis pas sûr que tous les lycéens ne vont pas se venger. Je ne suis pas sûr de ce qu'invente la patience d'un prisonnier. Et je ne suis pas sûr même qu'aucune massue n'ira se loger dans vos 3-4 crânes qui de l'espèce humaine se revendiquent d'être le reflet. Mais si la peur vous vient, arrêtez-vous dès maintenant, car vous n'avez aucune idée de ce qui se trame sous vos pieds, sous vos pieds, sous vos pieds, sous vos pieds, sous vos pieds. Sous vos pieds. pieds, sous vos pieds, sous vos pieds.
Est-ce qu'il y a des femmes médecins qui t'ont inspiré, c'est-à-dire dans l'histoire là, moi, pour avoir fait un petit peu 2-3 recherches sur Internet, je suis tombée sur 3 femmes pionnières des soins en 1820 et 1910. Voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des femmes comme ça qui t'ont inspiré dont tu...
Je crois pas. Non. Mmh. Pas particulièrement. J'ai été inspirée par des femmes sur mon parcours de médecin, personnellement.
Qui ?
Eh bien, j'ai envie de parler du docteur Bloch-Plouvier, qui exerçait à Figeac jusqu'à tout récemment, et qui a été l'une de mes formatrices, et qui est décédée cet été alors qu'elle était encore en activité. C'est une personne que j'admirais beaucoup pour son humanité, son écoute et sa disponibilité, et oui, qui m'a inspirée dans le genre de médecin que j'avais envie d'être. Voilà, je pense au docteur Mallet qui travaille à Gramma, qui m'a aussi inspirée et qui a été ma mentor pendant 6 mois. Je pense au docteur Gaulier qui travaille dans le Nord Aveyron, qui pareil est toujours une source d'inspiration pour moi. Ouais, c'est surtout ces 3 femmes-là qui aujourd'hui me viennent en tête.
D'accord. Pour leur humanité.
Mais pas que. Leur façon d'organiser leurs soins, leur façon d'être actrice des prises en charge, animatrices de la santé sur leur territoire. C'est des femmes qui ont beaucoup de courage, beaucoup de détermination et qui, malgré tout ça, restent d'une belle humanité et d'une belle accessibilité.
Eh ben merci. Merci Léa.
Avec plaisir. Merci Fred.
singing disco.